N'ajustez pas vos appareils. Raphaël est bien avec nous à 7 heures différente de son horaire habituel. Mais que voulez-vous? On finit à 5 heures encore aujourd'hui pour faire place à l'avant-match de la finale de la Coupe Stanley. Salut Raphaël.
Salut Marie-Claude.
Alors, Donald Trump accuse les procureurs de New York de biais suite à l'inculpation de son ex-directeur financier. Et, en tout cas, je veux t'entendre, je vais me taire.
Ça te surprend-tu?
Non, mais non. Écoute, j'en ai tellement à dire que je vais me taire.
Écoute, je vais être bref, je vais te laisser faire tes commentaires après coup. Peut-être juste récapituler pour les gens qui n'ont pas nécessairement suivi les nouvelles hier, c'était quand même un congé férié. Donald Trump a vu son ex-directeur financier, celui qui dirigeait les finances de l'entreprise familiale, se faire inculper par un grand jury de New York. Il est question de quoi? Ben, d'un stratagème essentiellement d'évasion fiscale là, qui se serait tiré sur une quinzaine d'années. Ce qui mérite d'être dit, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun membre de la famille Trump qui est nommé, l'ex-président non plus n'est pas nommé. Et donc, en ce qui me concerne, il y a vraiment, je dirais, deux questions qui découlent de tout ça. La première, c'est est-ce que c'est le début ou c'est la fin de la ligne? Autrement dit, est-ce qu'on va se servir de ce type-là pour faire tomber le reste des gros joueurs, comme un château de cartes, incluant peut-être le président ou l'ex-président et sa famille? Ou au contraire, ben, est-ce que c'est la fin de la ligne? Est-ce que le directeur financier, c'est le plus gros poisson qu'on a pu aller chercher? Ça, c'est la première question. Deuxième question, honnêtement, Marc-Claude, là, même si éventuellement Donald Trump est inculpé, qu'est-ce que politiquement ça va vraiment changer? Je sais pas. Parce qu'aux dernières nouvelles, puis on le voit encore aujourd'hui, il semble être capable de convaincre presque tout le monde dans son électorat que ces accusations-là sont une chasse aux sorcières, les idées sont pipées, etc. Fait que sur ce, je t'écoute pour faire ta petite montée de lait.
Non, mais c'est parce qu'on dit de celui qui a été inculpé, son nom m'échappe en ce moment.
Weisselberg, oui.
Ouais, c'est voilà, Weisselberg, que c'est le dernier des fidèles, le fidèle à Trump. Alors, est-ce qu'il parlera? Moi, ça m'étonnerait énormément. Mm-hmm. Et l'implication politique, ben écoute, j'ai juste une chose à te dire. Quand un président est capable de dire le lendemain de son inauguration qu'il y avait plus de monde qu'à l'inauguration d'Obama, je pense que ça dit tout. Et le pire, c'est que les gens le croient. Ne croit pas la science, ne croit pas ce qu'il voit, croit ce qu'il dit, peu importe ce qu'il dit, et ça, ben, ça peut aller très loin. Très, ben, remarque encore l'histoire de l'élection volée et puis tout ça, je dis, il est encore là-dessus et il va rester là-dessus et c'est très dangereux pour la démocratie américaine.
C'est pas juste qu'il est encore là-dessus, Marc-Claude, c'est que son monde le croit encore. Et tu parles de l'élection, c'est encore à ce jour, presque six mois après l'assermentation de l'homme qui l'a battu, là, c'est plus des deux tiers des électeurs républicains qui croient que Joe Biden est un président illégitime, qu'il a volé cette élection-là. Fait que s'il est capable de faire croire à autant de dizaines de millions de personnes quelque chose d'aussi absurde que la théorie sur la fraude massive dans le cadre de l'élection de l'an dernier, en quoi est-ce qu'il est incapable de les convaincre que des inculpations, même si elles viennent de la part d'un grand jury, sont crédibles. T'sais. Fait que les implications sont peut-être plus limitées qu'on le réalise.
De toute façon, il sera en prison, qu'il dira aux gens qu'il est au Club Med. Puis tout
mais
monde,
c'est pas juste ça, Marc-Claude.
J'exagère un
non,
peu.
Non, mais attends un petit peu. Ce que tu viens de dire est important, même si c'est dit, évidemment, de façon un petit peu absurde. Là.
Très ironique.
La réalité, puis là, je ne veux pas être cynique, là, mais c'est que pour être candidat présidentiel aux États-Unis, tu as besoin de trois choses constitutionnellement. Premièrement, avoir au moins 35 ans. Deuxièmement, être né aux États-Unis. Troisièmement, être résident des États-Unis depuis au moins 14 ans. Donald Trump remplit ces trois conditions-là. Autrement dit, il pourrait être derrière les barreaux et encore être candidat présidentiel.
Incroyable.
Puis si vous pensez que c'est une blague, pas nécessairement.
Incroyable. Bon, les États-Unis sur le point de mettre fin à leurs opérations en Afghanistan, puis ça part de Trump, ça aussi. Là. C'est Trump qui rêvait de ça, qui voulait ça, qui a annoncé ça. Et c'est pas une... Enfin, ça pourrait faire un beau bordel là-bas.
Ben, c'est ça la crainte présentement. Puis écoute, c'est l'éternel débat qu'on a depuis maintenant presque 20 ans, Marie-Claude. Joe Biden a promis, on le sait, un départ complet d'ici le 11 septembre. Là, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est la plus importante base aérienne, la base de Bagram qui a été, abandonnée, qui a été laissée là, par les Américains qui l'ont quittée. Au plus fort d'intervention américaine, on a plus de 100 000 soldats. Là, c'est descendu à peu près 2-3 000. Aujourd'hui, on est rendu presque à zéro. Et donc, le débat qu'on a depuis maintenant presque 20 ans, c'est de savoir qu'est-ce que ça donne si et quand les Américains quittent. Et là, cette semaine, Marc-Claude, t'as eu le commandant américain d'Afghanistan, général Miller, qui, soit dit en passant, aujourd'hui a officiellement remis ses pouvoirs à ce qu'on appelle CENTCOM, là, l'appareil de commande centrale de l'armée américaine qui est basé aux États-Unis, autre signe comme quoi la guerre, elle achève. Donc, le général Miller qui est allé dire, écoutez, si l'Afghanistan continue sur la voie actuelle, c'est très facile de visualiser une guerre civile dans le court terme.
Ah ben les talibans vont s'en donner à cœur joie, entre autres.
Ben, ils le font déjà. Ben écoute, oui. Selon Wall Street Journal, là, c'est en date d'aujourd'hui à peu près le quart des districts du pays, les districts de l'Afghanistan, qui sont déjà retombés sous leur gouverne. Les Américains sont même pas encore partis. Souvent, ce qui semble se passer, c'est que les talibans font une avancée, ils rencontrent des forces afghanes. On rappelle, là, les forces qui sont formées, qui sont financées depuis les Américains depuis 20 ans, et écoute, ça passe comme du beurre dans le poêle. Souvent, les forces afghanes se battent pas, rendent leurs armes. Puis, écoute, tu te poses la question, où sont allés tous ces sacrifices-là? Voilà. Plus de 2000 soldats américains morts.
Tout ça pour ça,
après 20 ans.
Ouais. Écoute, on va se laisser là-dessus, non sans dire que c'est le 4th of July en fin de semaine. C'est d'ailleurs ça qui fait que le hockey sera lundi. On sautera une journée, contrairement à d'habitude, qui est toujours aux deux jours. Alors, 4 juillet, c'est dimanche.
C'est dimanche. On s'en parlera la semaine prochaine, ma chère.
Avec grand, grand plaisir. Eh bien, on va s'arrêter le temps d'une pause. Après, ce sera les nouvelles. Et après, on poursuit l'émission jusqu'à 17h, puisque amateur de sport, exceptionnellement, en cette finale de la Coupe Stanley, commence à 17h.